Paul Sécure, épisode spécial, je suis avec Christophe. Comment vas-tu?
Très bien, Nicolas. Merci beaucoup de m'accueillir encore une fois.
C'est un énorme plaisir. Cette fois-ci, on va aborder la volet de la sécurité physique, qui est un univers en soi, mais qui est fondamental au fonctionnement de tout et incidemment une prémisse importante pour la sécurité cyber. Donc, un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Fait que je vais te laisser commencer avec ça.
Ouais, effectivement, c'est deux mondes qui convergent de plus en plus depuis une vingtaine d'années et chaque mois qui passe, on voit leur lien s'amplifier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de penser de plus en plus global, hein, que ce soit le bâtiment, les personnes, les systèmes. Petit exemple, un badge volé, une caméra piratée, on parlera, une clé USB, tout ça, c'est des assets physiques, mais qui, au final, ont un impact numérique très fort. Et d'un incident physique, on va dériver sur un incident cyber très rapidement. Donc aujourd'hui, effectivement, ça paraît difficile de les traiter en silo et elles deviennent indissociables l'une à l'autre.
Effectivement, puisque une fois qu'on a un accès physique à un actif numérique, on est foutu. Donc si on a peu importe les mesures qu'on met sur le numérique ou le digital, sans physique, on est nulle part, effectivement.
Ouais, devient un vrai enjeu stratégique, hein, puisque que ce soit les accès sensibles, les vols, le sabotage ou même la préparation aux incidents, hein, ça peut être d'incendie, l'inondation, l'intrusion, une coupure électrique, vont avoir forcément un impact derrière sur le numérique. Et donc, du coup, les plans de remédiation sont aussi à prendre en compte. Ils ne peuvent plus être séparés totalement, d'où parfois des confusions qu'il pourrait y avoir. Un exemple, hein, un prestataire qui vient dans une salle technique qui n'est pas surveillée ou mal surveillée, bah, qui coupe par erreur une alimentation ou du coup, on peut avoir de la perte de données, des arrêts de production, une perturbation. Ça marcherait aussi avec un câble arraché, hein, dans un local technique, hein, par exemple, pour les baies qui seraient moins un petit peu moins bien rangé.
Ouais, j'ai même un cas très on va dire comique où le data center était dans un armoire essentiellement et sur un petit site et la personne qui effectuait le ménage pour brancher l'aspirateur débranchait le rack de serveur.
Ah oui, effectivement.
Donc, on a des cas comme ça qui si on n'y réfléchit pas, les gens se posaient la question pourquoi il y avait une perte de connectivité à tous les jours à la même heure. Mais la réalité, c'est que la personne qui effectuait le ménage débranchait à la même heure pour brancher l'aspirateur et faire ce genre de choses. C'est banal, mais c'est de la sécurité physique qui est déficiente.
Exactement, exactement. Ça peut entraîner de la perte de production, de la perte de data et même voire pire, hein, parce que y a des cas concrets, hein, dont on peut parler, qui ont été médiatisés. Il y a des vols de disques durs chez British Airways en 2018. Les disques durs qui ont été physiquement volés, hein, le bilan c'est des millions de données et qui ont été utilisés ensuite pour faire du piratage. Donc ça vient pas toujours d'un hacker très loin et très caché. Hein. Des fois, il suffit d'un simple vol pour récupérer ces données qui vont servir ensuite à d'autres attaques. Il y a eu aussi les caméras là de Verkada en 2021. On a un peu plus de 100 000 caméras ou 150 000 qui ont été utilisées. Alors, il y a eu des prisons, des hôpitaux, des entreprises, plein de choses. Du coup, là, clairement, il n'y avait pas de segmentation du réseau. Donc, du coup, d'un asset physique qui est censé protéger du physique, bah, du coup, ils sont remontés, ils ont vu tout ce qui se passait. Donc, ça donne aussi de l'information. Donc, pareil, même cas. Il y avait eu aussi, de mémoire, on a eu un gros incendie chez OVH, à Strasbourg, hein, 2021, il y a eu beaucoup de répercussions. Là, c'est un data center qui brûle. Du coup, les milliers de serveurs derrière, ça a été catastrophique. On en a parlé un peu partout. Donc là, c'est pareil. Hein. Oui. Donc, du coup, on se rend compte que très rapidement, l'impact.
Ouais, puis pour ne pas stigmatiser OVH, des centres de données qui brûlent, c'est plus courant qu'on pense. Là, eux autres, malheureusement, ont été largement médiatisés, mais il y en a beaucoup d'autres qui vivent d'autres centres de données qui vivent des situations comme celle-ci. Donc, il y a des conséquences. Donc, si on n'est pas prêt, si le data center n'est pas adapté ou si on n'a pas de mesures de repli ou de résilience qui permettent de supporter le fait qu'on a un centre de données qui brûle, ben, ça crée des dommages important sur nos données, finalement.
Et oui, et puis peu importe finalement l'origine, que ce soit accidentel ou un sabotage malveillant, l'incendie il dit quand même. Donc on a une cause physique à la base, même si l'origine peut être diverse et variée. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et puis on a beaucoup de normes aujourd'hui qui se mettent un petit peu au pas. Que ce soit 27001, que ce soit 22301, le RGPD, différentes lois de programmation militaire dans différents pays, NIS 2 qui va arriver, tout ça clairement, ils insistent lourdement sur la sécurité physique, rajoutent des mesures de plus en plus larges, qui imposent des contrôles même renforcés de plus en plus sur les entreprises critiques. Donc du coup effectivement les normes se mettent assez au pas là-dessus et insistent lourdement de plus en plus.
Ouais, puis c'est plaisant de voir que les normes, et notamment comme NIS 2 en l'occurrence, ils prennent en compte le continuum entre le physique et le digital, qui ne traite pas un séparément de l'autre, que c'est pas deux solitudes, mais c'est vraiment un continuum, parce que un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Et la sécurité physique dépend du digital et la sécurité digitale dépend du physique. Cette interdépendance-là est forte, puisque les systèmes, disons, on va prendre un cas de système de détection, les systèmes de carte d'accès, sont appuyés sur des systèmes numériques. Et donc, le un et l'autre sont des interactions très, très fortes maintenant et même tellement rattachées qu'on peut pas... On c'est mal de dissocier un et l'autre.
Exactement. Et c'est pour ça que, du coup, on est passé avant de mesures physiques aujourd'hui à carrément la coordination, c'est écrit plusieurs reprises, de coordonner les fonctions sûreté cybersécurité. On va au-delà de la mesure classique, on demande de coordonner maintenant, puisque ça n'a pas toujours été pris en compte, et tu as entièrement raison. Cette convergence entre la cyber et le physique, ça regroupe notamment effectivement le contrôle d'accès, une logique physique, badge, biométrie et tout ça, MFA. Non, puisqu'on pourrait considérer que finalement le téléphone sur lequel on va valider est un asset physique. Donc il n'y a plus de dissociation, et qu'est-ce qui est physique, qu'est-ce qui est numérique, aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile de le dire. Certains vont considérer le badge physique, d'autres vont considérer que vu l'empreinte numérique qu'il y a dessus, c'est du numérique, et donc du coup ça peut avoir aussi des systèmes trop isolés si on s'entend pas en interne dans l'organisation. Pareil pour les caméras, les adresses IP, les alarmes connectées aujourd'hui, des capteurs, qui pourraient avoir, que ça soit sismique ou autre, de détection, on est dans la même logique. Donc aujourd'hui, les incidents, finalement, on parle beaucoup d'incidents cyber à tracer, ça relativement bien pris, mais effectivement aujourd'hui il faut je pense aussi tracer et remonter ces incidents physiques qui malheureusement parfois restent souvent au niveau d'un accueil ou d'un service général, ne remontent accès que très rarement sur des RSSI, des CISO ou des DSI. Moi je sais que dans mes postes de RSSI que j'ai pu avoir, je demandais en fait le cahier d'un les problématiques et les incidents physiques. Et c'est vrai que parfois, certains comprenaient tout de suite, et d'autres mettaient un peu plus de temps et n'avaient pas vu forcément cette relation-là.
Et effectivement, ouais, j'ai même vu des fois de la résistance à partager l'information entre les deux univers. Il y en a qui se sentent attaqués ou se sentent insécures à partager l'information avec une vue globale et une chose. Quand dans les faits, si on prend entreprise, ben, c'est le risque de l'ensemble de l'entreprise qu'ils ont. Donc, les incidents en font partie de cette vision globale-là qui n'est, à mon sens, plus que nécessaire.
Ouais, complètement. C'est vrai que cette résistance-là, elle peut provenir de plusieurs choses. On reste humain. Certaines personnes peuvent avoir aussi des peurs par rapport à leur fonction, à leur poste, des choses qu'on pourrait leur enlever ou au contraire leur rajouter des charges. Et ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Mais effectivement, je pense qu'il faut essayer de dépasser, en fait, sa petite fonction à soi-même et essayer de voir plutôt dans un esprit plus corporate, plus global et pour faire avancer l'organisation plutôt que sa propre division, son propre service. C'est pas toujours simple, effectivement.
Ouais, quand on y rajoute un facteur humain, des fois ça rajoute un peu de complexité, mais justement, comme tu le mentionnes, il faut désamorcer ces inquiétudes-là parce que ça demande pour le bien du grand ensemble d'avoir ce partagé, ce continuum qui coopère et qui fonctionne bien ensemble.
Oui, mais complètement. Et puis s'il faut au contraire fusionner ces fonctions-là sur tes cyber, autant c'est à l'inverse, c'est pour cloisonner plus la physique et le cyber en termes d'assets, puisque du coup, prendre un exemple, hein, si les réseaux de caméras dont on parlait tout à l'heure, bah, les caméras internes et caméras externes, potentiellement, ça serait une bonne idée de séparer les réseaux. Ça serait quand même mieux. Et c'est vrai que ça a un coût supplémentaire, effectivement. Il y a aussi cette résistance-là, qui est un coût budgétaire, effectivement. C'est deux réseaux séparés, des enregistreurs différents. Donc, ça multiplie un petit peu les coûts. Donc, voilà, cette résistance, elle est aussi là parfois. Mais aujourd'hui, il y a assez de systèmes, il y a assez de solutions qui sont sur le marché pour essayer de trouver des choses et les challenger et arriver à quelque chose de cohérent en termes de coûts aussi. Et puis, y aller par étapes dans sa roadmap, c'est important aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller un petit peu à des entreprises, quelle que soit leur taille, hein, aujourd'hui, ça serait peut-être de limiter l'accès aux zones sensibles déjà. Que ça se soit par des badges, surveillance humaine, vidéo, tout ça doit être redondant, recoupé. Qu'un incident, que chacun des incidents qu'il pourrait créer doit être quelque part à un moment donné mutualisé. Quitte à te faire peut-être des comités de sécurité, des comités de pilotage communs. Comme ça, ça évite d'exclure certaines personnes et au contraire d'avoir une vision d'ensemble. Les plans de secours. Pensez à ces redondances, hein. On parlait des incendies tout à l'heure, ou des actes de sabotage, effectivement. De sécuriser tous les périphériques qui sont vraiment critiques, hein, des réseaux. Vous savez, si on arrive à rentrer par la porte, et qu'on arrive derrière sur un laptop, qu'on arrive sur une baie, ou pire, sur un data center, il n'y a qu'une porte, il n'y a que quelques portes. Donc, si on sait en ouvrir, on peut y arriver facilement au final. Et ça coûte parfois moins cher que de hacker à distance ou de.
C'est parfois, ouais, c'est ça. Les chemins de plus faible résistance, puis c'est effectivement, les gens en cyber ont tendance à oublier que le physique a cet aspect-là important et qu'il joue un rôle clé. Et parfois, ça va être plus facile pour la personne d'aller voler directement un disque dur, une machine ou peu importe, que d'essayer de casser le chiffrement qui a été mis dans la communication. Donc, c'est toujours dans ce contexte-là qu'il faut évaluer qu'on renforce un élément. Donc, on va faire dévier les attaques vers des éléments plus faibles nécessairement parce que les attaquants vont toujours aller sur le chemin de la plus faible résistance possible. Et si le physique devient le chemin de la plus faible résistance, nécessairement, les attaques vont commencer à migrer vers cet axe-là assez rapidement même.
Complètement, hein. Si on le voit, hein. Je prends toujours cet exemple-là. Si on met les meilleurs matériels, les meilleures configurations dans un jardin sur une table de camping, on peut avoir le meilleur réseau du monde, la meilleure config du monde, on arrivera à prendre ce qu'on veut au final. Donc effectivement, le mieux c'est de construire une bonne maison autour pour que effectivement on n'ait pas accès direct parce que sinon je prends toujours cet exemple-là parce que c'est assez parlant de s'imaginer un data center sur une table de camping, mais au final je pense que c'est assez visuel pour se rendre compte du problème.
Oui, évidemment. Puis il y a beaucoup d'équipements. Puis si on parle de ce qu'on appelle maintenant l'Internet des objets, notamment tous ces équipements branchés là. Il y en a beaucoup d'équipements un peu répartis sur le territoire. On a juste à penser aux tours cellulaires, par exemple, qui sont un bel exemple d'éléments répartis. Les éoliennes sont des éléments répartis où la sécurité physique est plus complexe, mais ne peut pas être négligée parce qu'il n'y a pas nécessairement même d'humains qui sont généralement proche de ces équipements-là, donc il y a des conséquences à un oubli important de sécurité physique qui a été fait. Au Québec, on a eu le cas où, il y a heureusement beaucoup d'années, un journaliste d'enquête est allé dans les installations hydroélectriques où la sécurité physique avait été malheureusement délaissée parce qu'il avait été fait pas de bris. On délaisse tranquillement, on oublie, on laisse dépérir. Et cet élément-là de journalisme d'enquête a ramené dans l'avant-plan et on redéployé des structures de sécurité qu'on peut appeler des sécurités physiques, mais c'est des portes, des caméras, des badges qui permettent ce genre d'éléments-là, de surveillance qui surveillent l'environnement physique, mais avec des équipements digitales. du tout.
Ouais, complètement, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'entités industrielles ou productives qui pourraient être complètement, par leur nature même, comme tu disais, que ce soit panneaux solaires, que ce soit des éoliennes, que ce soit des radars, que ce soit plein de choses qui sont effectivement souvent dans des zones assez peu peuplées, avec un long chemin pour y accéder, mais du coup, on a le temps d'y aller, puisqu'il n'y a pas grand monde. Et donc, du coup, si dit isolé, dit plus de temps aussi pour y accéder. Et donc plus de temps, ça permet aussi d'avoir moins de réactivité, le temps que quelqu'un se déplace ou branche la caméra qui n'a peut-être été branchée que deux fois dans l'année. Donc effectivement, ouais, complètement. C'est pour ça que souvent on se demande aussi, on parle de l'équation de la sûreté, de la sécurité, en fonction de ce qu'on recherche, mais l'idée, c'est d'avoir un temps de résistance qui soit strictement supérieur au temps de détection et au temps d'intervention. Peu importe quel qu'il soit, ça peut être une heure, ça peut être plusieurs heures, ça peut être quelques minutes. À partir du moment où on respecte ça, à partir de là, on va pouvoir mettre les mesures qui vont bien. Et l'important, c'est de pouvoir intervenir et de détecter avant que la résistance qu'on a mis en place, quelle qu'elle soit, porte, blindage, grillage, du plus simple au plus complexe, avant qu'il soit totalement ouvert. Et à partir du moment où on respecte ça, on peut optimiser d'une manière absolument formidable tous ces sites-là, et avec une équation toute simple.
Oui, puis j'aime beaucoup cette approche-là de la sécurité physique, qui est méconnue en cyber, et qui aurait intérêt à être mieux acquis comme connaissance, puisque du fait qu'on est capable d'avoir détaillé des éléments, des durées de résistance de certains contrôles ou de l'application de plusieurs contrôles, nous place dans une mesure où on est capable d'accepter qu'il va y avoir des intrusions, mais que ces intrusions-là vont être nécessairement arrêtées avant qu'il y ait le temps de se rendre au bijou de famille. À les éléments importants et que les équipes d'intervention numérique soient capables d'arriver et d'intervenir avant que le mal soit fait, au même titre que dans la sécurité physique, que les équipes d'intervention physique soient capables d'être sur les lieux pour intercepter l'intrus qui essaie d'accéder de façon non autorisée à des informations ou à des systèmes qui sont critiques.
Oui, et complètement. Et en plus, cette équation-là, elle permet d'être appliquée au numérique et au physique, puisque le temps d'intervention, comme tu dis, peut être un temps d'intervention à distance d'un administrateur qui pourrait justement bloquer, protéger les données, voire les effacer si j'ai en cas de vol, ou physiquement, d'avoir quelqu'un sur place, un gardiennage qui vient, qui intervient, ou une permanence, une astreinte, peu importe. Et donc, les sont applicables aux deux, au physique et au numérique. Et si les deux sont liés, on peut même coupler les deux, avoir une première intervention très rapide d'un côté à distance, et ensuite le temps permettrait de laisser le temps d'arriver au niveau physique. Donc cette section-là, elle est vraiment très utile là-dessus. C'est le principe fondamental, hein, c'est retarder, détecter, réagir, si on peut reprendre ça. Et puis plus on va multiplier les barrières, et plus on va retarder. Donc ça, c'est aussi important. Et comme tu dis, il y a différentes possibilités. On a du barriérage, on a des caméras, on a des alarmes, on a des sas, on a des portes plus ou moins fortes, légères, bois, blindage, etc. Il y a tout un tas de possibilités aujourd'hui. Toutes ces normes-là, toutes ces structures-là sont normées. Il y a différents centres dans le monde qui font des tests tous les jours pour justement tester la résistance, et donc avec des normes et des niveaux de sécurité. Donc on sait normalement, quand on fait des achats, la résistance, en tout cas on peut la challenger, on peut la demander. Donc théoriquement, si un responsable sûreté, un RSSI, demande un temps de résistance de X, on devrait pouvoir, au niveau des achats, très facilement pouvoir retrouver ça en les multipliant au fur et à mesure, en rajoutant quelques minutes qui peuvent être très précieuses.
Effectivement, c'est de très important de le réfléchir comme ça. Puis le monde cyber a un peu plus de difficulté à le réfléchir comme ça, mais aurait intérêt justement, comme tu l'expliques très bien, à s'y pencher pour arriver à des capacités différentes.
Complètement. Complètement. C'est une gouvernance, une culture de la sécurité, sûreté cyber, finalement, qu'il faut acquérir. Et à la fois, il faut réussir à former et sensibiliser, en fait, en interne, les équipes de sûreté physique un peu au cyber, aux nouvelles technologies qui évoluent en permanence. Et à la fois, ces équipes-là, pourrait former et sensibiliser les équipes numériques justement à leurs problématiques, et du coup il pourrait même avoir un vaste communicant intéressant puisque chacun se formerait, et du coup il n'y aurait pas ce côté un petit peu l'un est au-dessus de l'autre, et du coup ça peut-être on peut même imaginer une cohésion plus importante des équipes si elles se parlaient, et justement en se formant, en apportant ce point de vue-là, je pense que ça peut, tout le monde serait, jamais tout le monde est réceptif, en tout cas on peut que améliorer, comme on dit plus 1 et c'est toujours mieux que 0.
Oui, absolument.
Donc aujourd'hui voilà, si j'ai des quelques conseils à donner, ça serait d'instaurer un référent qui serait capable d'intégrer cette mutualisation-là, sûreté, sécurité, cybersécurité, d'organiser des exercices hybrides. On parle beaucoup des exercices cyber, mais moi je trouve que créer un exercice hybride serait encore plus performant. Une intrusion physique qui s'ensuit d'un incident cyber, on pourrait travailler sous les deux en même temps. Ça demande pas beaucoup plus de temps, pas beaucoup plus de monde, et du coup on coche deux cases. Ça, je pense que ça pourrait être des choses qui pourraient être intéressantes. Peut-être viser les PSSI, hein, les politiques de sécurité aussi, pour inclure cette sécurité physique là, et inversement ça pourrait être aussi intéressant, parce que la menace on la choisit pas en fait, hein. Elle peut être physique, humaine, numérique, on la choisit pas, mais elles sont réellement interconnectées. Réellement aujourd'hui, même les repérages aujourd'hui, on pourrait dire qu'un repérage d'un sabotage, d'un cambriolage, finalement la première chose que la personne va faire, ça va être Google Earth ou Google Maps. Moi avec les satellites on voit tout, donc du coup bon, il y a certaines zones encore heureusement qui sont protégées, mais malgré tout c'est par là que ça commence. Donc, de toute façon, c'est lié dès le départ, tout de suite.
Est-ce que tu as d'autres conseils qui pourraient justement aider à cette convergence-là?
Alors, oui, la question à se poser, ça serait de faire des mini-audits croisés. On parle d'audits d'intrusion physique et d'audits cyber. On pourrait peut-être faire des audits croisés de temps en temps. C'est un conseil que je pourrais donner, de segmenter de plus en plus les réseaux, former les salariés. Les questions à se poser, ça serait, est-ce que mes locaux sont facilement accessibles, et le faire, en combien de temps je suis capable d'arriver au point névralgique, qui a accès. On parlait de droits d'accès cyber, je pense que les droits d'accès physique sont les mêmes. Et éviter les petits plots pour les pauses intempestives qui bloquent les portes. Repenser les systèmes de sécurité, alarme, caméra, barriérage, accueil, pour qu'ils soient bien verrouillés. Et peut-être. Allez, on peut même imaginer une nouvelle fonction, un référent de sécurité hybride. Ça serait intéressant si on pousse sur l'innovation et qu'on propose des choses qui changent, parce que c'est le but aussi, c'est de créer des référents hybrides. Qu'on ait cette double vision et toujours avoir cet accès à la direction, sinon ça fonctionne pas, on le sait.
Ça, en cyber, on le sait que si on n'a pas accès à la direction, on n'est pas capable d'avancer nulle part.
Complètement. Et c'est vrai qu'après, tout est une question de coût, évidemment, mais je pense que le coût de l'investissement, on est toujours dans la même logique. Il y a le coût immédiat et le coût de l'investissement à long terme. Et ça aussi, il faut savoir le mesurer quand on propose des mesures. Je pense qu'il faut aussi l'anticiper et le dire, voilà ce que ça pourrait coûter de changer les choses avec un plan, mais voilà ce que ça peut aussi nous apporter et nous faire gagner comme argent pour après, parce que les responsabilités sont multiples.
Oui, absolument. Ça fait un bon tour. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas couverts que tu aimerais aborder?
Non, sur la partie physique, on a apporté beaucoup de choses. Après, évidemment, la partie physique, si on pourrait peut-être prolonger un petit peu sur toujours les réseaux sociaux, les employés, etc. Je profite parce qu'il y a beaucoup de salons. Aujourd'hui, en ce moment, depuis début d'année, en tout cas, depuis la fin de l'année, on a beaucoup de salons, que ce soit cyber, physique, aéronautique, défense et autres, qu'il y en a beaucoup un peu partout. Et la sécurité physique, elle commence là, pas que dans les entités de l'entreprise, elle commence aussi sur les salons, sur ces grands événements qui nous rassemblent et sur lesquels on a le plaisir à se revoir et se rencontrer, mais elle commence là, les badges, les informations, ce qui se passe autour des stands, ce qui se passe en dehors des stands, dans les soirées et autres, ça commence à c'est la sécurité physique. Et c'est donc c'est pas toujours que dans l'organisation. Ça marche aussi dans les transports, aéroports, trains et autres. Donc on voit encore trop de gens mettre leur badge, garder leur badge quand ils montent dans le train ou dans l'avion, ou traverser la rue au restaurant du coin et dire tout un tas de choses. Donc du coup ça fait partie de ça aussi.
C'est ça. C'est pour boucler, c'est un grand continuum d'éléments. Le physique en fait partie et dans d'autres ensembles. Mais justement, on oublie malheureusement un peu trop souvent. On s'identifie trop, on est trop fier de s'identifier aussi dans certains égards à notre employeur. Donc, d'avoir les identifiants sur les laptops, les badges et ainsi de suite qui peuvent être facilement volés ou recopiés, si on parle des badges notamment, c'est pas très difficile. Donc, on donne accès rapidement à des gens, à des choses qui ne devraient pas.
Avec complètement. Il y a beaucoup trop de choses qui traînent, qui sont visuellement. Maintenant, en plus, sur quasiment tous les badges, il y a des QR codes aujourd'hui. Alors, bon, quand on voit certaines publications, on peut se poser quelques questions, effectivement.
de ce genre de choses-là, de cette fuite d'informations qui a des impacts sur la sécurité physique et que les gens négligent un peu trop. Parce que, encore là, on revient dans des domaines où les gens sont précieux et gardent leur côté. Il faut justement ouvrir et partager cette connaissance-là pour qu'on améliore le sort de tous.
Oui, complètement. On le voit même, c'est partout. Hein. On le voit même dans les conflits aujourd'hui. Hein. On voit qu'aujourd'hui, l'attaque physique ne peut pas être déliée et séparée du numérique. On le voit dans les conflits actuels dans le monde. On a une part importante. Celui qui est moins bon physique et parfois prend le pas côté numérique, grâce à certains outils, téléguidage ou drone ou autre, et puis inversement, on le voit que ça parfois redistribue des cartes qu'on n'aurait pas forcément imaginées, avec des capacités finalement tout aussi dévastatrices.
Oui, absolument. Mais sur ça, on va conclure. Je te remercie énormément de ce partage-là. C'est un aspect de la sécurité qu'on a tendance, en tout cas du moins les gens en cyber, à négliger. Donc, si on est capable de ramener ce continuum-là puis d'avoir un gain pour tous, je pense qu'on va en sortir plus sécuritaire à la fin.
C'est ça, exactement. Il faut penser global aujourd'hui. On n'a pas le choix. Transverse et global.
Oui, merci.
Je t'en prie, Nicolas.